Bienvenue dans l'Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Je suis le gars le mieux accompagné de toute la station. J'ai une louve et un grand boss. La louve, c'est Audrey Pinchot. Salut.
Hello.
Et le grand boss, c'est Pascal CV qui va être vers 11h30 avec nous autres. Comment ça va?
Ça va bien pour vrai ce matin.
Moi, j'ai une petite grippe.
Mais ça s'entend, tu as la petite voix un peu nasillarde.
Puis à chaque fois, là, j'ai pris du Drixoral. Ça, c'est un médicament de l'enfer.
En c'est
passant,
magique.
Quand vous allez chercher ça à la pharmacie, vous êtes congestionné. Jasez avec la pharmacienne pour qu'elle vous donne les indications nécessaires pour ne pas devenir dépendant. Et c'est pas une blague.
Ah oui, puis ça brûle l'intérieur. Là.
Exact. Et à long terme, si vous utilisez ça trop souvent, ben, ça peut brûler l'intérieur de votre nez. Ça va vous développer des problèmes supplémentaires dont j'ignore la cause exacte. Mais la pharmacienne, à chaque fois qu'elle me voit prendre ça, elle vient me voir et elle dit « Marceau, tu sais c'est quoi ça? » Je dis « Oui, OK, c'est bon. »
C'est vraiment un cas extrême.
C'est vraiment un cas extrême. Puis en même temps, ça décongestionne tellement bien. Ouais. C'est le seul médicament, moi, qui fonctionne bien sur mon corps.
Oh oui, ça t'enlève tout ce que t'as dans le nez, ça te permet de respirer puis de revenir un peu.
Ouais. C'est juste que ça, tu te demandes pourquoi le nez c'est relié avec le cerveau et tout ça. Là. Puis là, ben, tu le sens. Que c'est relié avec le cerveau quand tu prends ça.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que quand t'es con.
OK, c'est... ça se rend jusque-là.
C'est quand t'es congestionné à la base, t'as l'impression que ta tête, elle devient un peu en résonance, ouais. Là, t'es toute pognée partout, là. Mais toi, t'es relié dans le corps, hein. Pas pour rien que les points de pression pis ces affaires-là existent, là. Je veux dire, t'as mal dans le dos pis c'est dans les pieds quasiment qui te traitent, là.
Ouais, j'ai jamais embarqué là-dedans, mais j'imagine qu'effectivement, ça peut fonctionner pour certains. Moi, le Drixoral, je le conseille à tout le monde, mais utilisez pas ça en fou parce que vous allez vous ramasser avec des problèmes. Pas pire. Content de te voir.
Ben, moi aussi.
Quand je dis que t'es la louve, là, je t'entends vraiment être une louve dans la place. Tu protèges tes amis, tu protèges tes collègues. Si jamais tu sens qu'une amie ou un collègue peut être en danger ou est victime d'une injustice, tu te dresses sur tes talons hauts en disant « Tu fais pas ça ».
C'est le seul moment, en fait, où je pense que j'ai du caractère, parce que je me considère quand même douce, mais quand tu approches les gens que j'aime ou que tu parles des gens que j'aime en mal ou en... Je deviens vraiment très, très sur la défensive.
Ouais.
Mais je pense que tu as un peu ce côté-là aussi, tu sais, l'effet de justice, je veux dire, tu sais. J'ai l'impression, je me trompe-tu?
Ouais, je pense que tout le monde l'a intrinsèquement en soi. Là.
Ah oui, tu trouves?
Mais en milieu de travail, c'est rare que je vais m'exprimer comme ça.
Ah,
je
vais ben,
juste pousser, là, mettons qu'on prend Max, notre collègue.
Ouais. Okay?
Et là, Max, il s'intéresse à ma soeur.
Ouais.
Puis là, Max, il me pose des questions sur ma soeur. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ma soeur, Max? Puis là, il va me dire, ben là, j'aimerais ça la dater parce que je l'ai vu passer sur Tinder. Ma soeur n'est pas sur Tinder. Là. Et... si ça m'intéresse pas que Max soit mon beau-frère, je vais y faire savoir, mais comme d'une autre façon. D'une façon détournée pour pas trop l'insulter, mettons.
OK. Mais ouais. Tu sais, il faut... C'est une histoire vraie. Mettons qu'on dit vraies affaires, OK, là. Max aime les gens qui m'entourent.
Ben, pour lui, t'es une taille.
Mais je pense... Non, mais Max, c'est comme mon petit frère. J'en ai parlé souvent en nombre. Puis c'est la beauté qu'on a ici à Job, c'est que pour certaines relations, on n'est pas juste des collègues. Puis Max, c'est vraiment un ami que je considère très cher à mes yeux, avec qui je passe du temps. Hein, puis ben Max a l'œil sur quelqu'un de proche de moi. Je suis comme pas sûr.
Non, justement, s'il était sérieux, je pense que tu accepterais, parce que c'est un bon gars, Max.
Le pire, c'est que je pense que le jour où Max va tomber en amour puis va trouver vraiment sa petite perle, là,
ouais.
Ça va être incroyable.
Ouais,
c'est un bon gars, c'est un gars qui prend soin, qui a un grand cœur, mais il est pas dans cette phase-là de vie actuellement. T'sais.
Le problème, c'est qu'il est comme un singe qui se promène dans les arbres.
Ben,
il lâche pas une branche en avoir pogné un autre.
Exactement, puis j'ai pas le goût que ma chum devienne une branche. Et plus que ça dans la vie. Pauvre petit, hein? Il n'est pas là pour se défendre.
Ben, on en profite.
Oui, c'est vrai, c'est les meilleurs moments.
C'est important de défendre ses amis. Tu sais quoi, quand je te vois aller là, dans l'entreprise, je rencontre tes valeurs.
Ah mon Dieu, c'est donc bien beau ça.
Mais c'est vrai. On voit les valeurs d'une personne quand elle se respecte et elle se fait respecter, puis toi, tu le fais régulièrement.
Hey, mon Dieu, mais je vais le prendre, c'est vraiment un beau compliment.
J'ai-tu dit quelque chose d'intelligent, moi?
Ben oui, puis écoute, ça c'est...
De retour à mon personnage.
Non, mais je mets un X sur le calendrier.
Hey, c'est 17 degrés sur Québec, une alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui. Pour l'instant, c'est assez nuageux. Je ne sais pas si dans votre secteur ça l'est, mais au-dessus de Québec, c'est une belle couverture de nuages qu'on a. Mais ça devrait se dissiper selon Environnement Canada. Maximum de 26 avec humidex 30. Ce soir, soir, cette nuit, partiellement nuageux. 30 % de probabilité d'averse en soirée. On nous dit en fin de nuit. Demain, vendredi, une belle journée. Alternance de soleil et nuages, maximum de 22. Humidex de 25. Samedi, du soleil avec un maximum de 20. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 20 degrés.
Ça sent bien frais. Ça fait du bien.
Oui, t'es bien, là.
Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, moi, ça me rend heureuse. Ah, écoute, ce matin, là, puis on est vraiment chanceux parce que dans les derniers jours, le lever de soleil et le coucher de soleil est à couper le souffle. Tu sais, moi, quand je pars à 6 heures, là, j'ai la chance de voir le soleil commencer à se coucher. Là. C'est rose, c'est pétant, avec la pleine lune en plus cette semaine. Je veux dire, c'est écœurant, hein, le spectacle que ça donne. Ça s'est couvert un peu, mais pour ceux qui ont la chance de rouler tôt, là, ça réconcilie avec le trafic, on va dire ça comme ça. Parlant de trafic en ce moment, si vous êtes sur Charest, direction Est, sachez qu'il y a déjà un bon ralentissement entre Henri IV et Robert Bourassa. C'est un ralentissement assez inhabituel à cette heure-ci. Là. Il y a aussi des problèmes sur la 20 Ouest à la hauteur de Taniata. Évidemment, si vous observez quoi que ce soit, c'est le 418-971-1021. Ça, c'est le texto. Il y a le numéro de téléphone aussi. Gênez-vous pas, hein? 780-1021. Puis le Twitch. Sais-tu, Yann, que hier, j'ai oublié en fin de show de fermer le Twitch.
À quelle heure?
Ben, 18h. Je suis partie, puis je l'ai laissé rouler. Et là, c'est des auditeurs qui nous ont écrit pour nous dire « Hey, je sais pas si c'est voulu, je sais pas ce qui se passe la nuit chez vous, mais là, on est parti pour une nuit sur le Twitch à pouvoir observer ce qui se passe dans la station. »
Quand chance, il y a personne qui est venu faire des mamours ici.
Hey, on y a pensé. Ben, Véro a traversé, il est venu tout fermer ça.
Hey, t'as-tu déjà fait des mamours sur ton lieu de travail?
Pas sur le mien, sur celui...
Quoi?
Pas sur le mien.
Hey, c'est une bonne question qu'on peut poser aux auditeurs. 418-971-1021.
Hein?
Avez-vous déjà fait l'amour au travail puis vous travaillez dans quel domaine? Moi, ça m'est déjà arrivé aussi.
Ça t'est déjà arrivé?
Mais pas ici.
Mais dans une autre station.
Dans une autre station. Ben, en fait, j'en ai pas fait 50.
Non, mais c'est parce que je sais. C'est pour rediriger les gens.
C'est
okay?
Ça.
Ah oui, hein?
Oui.
Mais il y a de quoi de trillant là-dedans?
Je
sais pas, la peur de te faire pogner ou le... Ça m'est arrivé à l'école. Puis ça m'est arrivé dans un lieu de travail. Mais tu sais, pas dans le mien. Pas ici, en tout cas.
OK.
J'aurais pas où. J'aurais comme peur de... Tu sais, il y a un endroit où j'aurais vu ça secret.
Ça peut pas être d'autre chose que le studio, là. Tu peux pas faire l'amour ailleurs ici que dans
un
boat. Studio. Dans mon ancienne vie, on avait un divan qui a été là pendant à peu près 20 ans. Le divan était orange, là. Fait qu'aux décorations de l'époque, aux couleurs de l'époque, là, on va se le dire. Tu sais, le vieux tapis orange qu'on avait, là.
Oui.
Bon, ben là, il y avait un divan qui était de cette couleur-là. Puis on interdisait aux filles de s'asseoir sur ce divan-là parce qu'on avait peur qu'elles tombent enceintes.
Ah, mon Dieu, que c'est niaiseux.
Il s'était tellement passé d'histoire sur ce divan-là, à cette station-là, que quand ils ont décidé de le débarrasser, ils ont dit à des gens, « Tu es quelqu'un qui veut ce divan-là? » Personne ne voulait.
Mais là, je comprends donc.
Ça a l'air que tout se passait là.
Mais là, j'espère que c'est qu'il y a personne qui n'a jamais rien fait parce que je suis souvent sur le divan. Là.
Tu vois,
Non, moi, studio peut-être, je sais pas. C'est parce qu'il faut que tu sois quand même confortable. Là, dans tout ça.
Sébastien qui dit « Salut, j'étais guide dans une église.
Hein? »
J'étais guide dans une église et j'ai déjà fait des coquineries dans un confessionnal.
Bon. Ah non, tu vas aller en enfer, là.
Ben, en espérant que c'était pas avec le curé, mon Sébastien. Ben qui dit « Salut, au McDo avec ma blonde, dans les salles des employés quand on a commencé à sortir ensemble. »
J'ai déjà entendu, on a travaillé tous les deux au McDo, j'ai déjà entendu dans les congélateurs. Il y a des gigantesques congélateurs où on laisse les muffins et tout ce qui se congèle au McDo.
Ils ont fait l'amour dans le congélateur?
Oui.
Okay.
Oui, il y a des gens qui sont originaux.
Oui, ils sont faits forts. Télétravail, donc j'ai fait l'amour en télétravail. Dans mon truck FedEx. Ah, oh, ouais.
Crime.
Je verrais plus jamais les trucks FedEx pareils.
Ben non, c'est ça. Sur une trampoline, quelqu'un nous dit. C'est assez particulier, ça.
Ben ouais, c'est moins dur pour ton swing, là.
Oui, c'est plus facile, effectivement. Ça... Hé, hey, mon Dieu, vous vous confiez donc bien un matin, c'est le fun.
Oui, mais c'est ça, tu sais, dans une station de radio, la seule place où tu peux faire l'amour ou baiser, c'est carrément dans le studio. Tu peux pas faire ça ailleurs.
Pourquoi pas? C'est pas assez... Moi, j'aurais peur de comme, je sais pas, les pitons pis tout, là, c'est dangereux, là. Il y a des caméras ici.
Non, mais tu fais, je sais pas, pourquoi tu veux t'asseoir sur la console, toi, là?
Ben là, tant qu'à être dans le studio.
Une table, là, il y a une chaise. Toutes les fois où j'amène ma blonde en camion. Ah, oui. Il y en a qui ont pas mal de place dans leur camion. Ceux qui ont des petites couchettes à l'intérieur, là. Il y en a qui ont pas mal de place.
Sur le toit d'un gros Winnebago, pas à moi.
En espérant qu'il n'y ait personne qui était couché en dessous.
Sur un scooter. Voyons, les gens ont donc bien des vies.
J'ai fait l'amour sur ma moto. Moi.
Arrête!
Ben, pas celle-là que j'ai, mais mon Harley, mon premier Harley, j'avais fait l'amour sur ma moto.
Tu l'as baptisé?
Oui. C'était sur le bord du fleuve Saint-Laurent.
Quand j'étais jeune, c'est-tu ce qu'on disait? Okay. Au secondaire, les gars qui avaient un char en secondaire 5, si t'avais des dés qui pendaient dans ton auto, c'est que t'avais baptisé ton char. Fait que les gars se donnaient un défi de faire l'amour dans leur auto dans le but de pouvoir acheter les dés puis les faire pendre après leur miroir en avant. Ça voulait dire que le char était baptisé.
Non, ouais.
Hein?
Jamais pensé à ça.
Fait que tu vois, c'est le même que comme fille, on pouvait savoir si on était spécial ou pas.
Dans mon ancienne vie, j'étais conducteur de camion avec une fille d'une cliente dans le trailer réfrigéré, gracieuseté de collabore.
Oh boy, OK.
Ma cousine est policière, ils l'ont déjà fait dans une cellule. C'est un fantasme.
Hein? C'est quand même hot, ça. C'est quand même...
Ouais, mais ça, ça se peut-tu que tu perdes ta job, mettons que tu fais une affaire de même?
Mais là, c'est sûr. Là, mais c'est comme si, Yann, d'un matin, tu te fais pogner ici, t'es pas mal sûr que tu te fais rencontrer. Là.
Ah, quelqu'un qui dit, t'as-tu un test de germes sur le fameux divan, Marceau? Ouais, moi, je suis germophobe en plus, fait que c'est un peu plus compliqué mes affaires. Là.
Mais... Ma blonde et moi l'avons fait dans la cuisine du restaurant où on s'est rencontrés. J'ai tout désinfecté après, j'espère.
Quelqu'un qui me dit, moi, j'avais déjà fait dans un ascenseur, à l'hôpital, au cinéma, dans les toilettes, à la piscine, dans les spas. Ça va les obséder?
Hé, mon doux, je me rends compte que ma vie est plate. C'est complexe, hein, cette affaire-là. On arrête ce jeu-là. C'est pointable.
Marie qui dit dans une glissade pour enfants.
La nuit, bien sûr.
Oui, oui, c'est important d'attendre la nuit.
Ben oui, quand même. Il y a quelqu'un sur Twitch qui nous dit en hiver sur mon 3 roues. On était fait fort quand on était jeune. Oui, c'est ça aussi, hein. Je pense qu'il y a une question d'âge à un certain point.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tout dépendant de l'âge que tu avais, des fois, ça va très rapidement. Là,
oui, puis, t'es... Oui, c'est un bon point. Puis, t'es inconscient, on dit. On dirait aussi jeune.
À ce temps-là, je pensais que c'était le plus beau 30 secondes de toute leur vie à ces filles-là.
Et pourtant, le pire, t'es chanceux parce que je pense qu'à cet âge-là, on a l'impression que c'est de même aussi. Avant de prendre de l'expérience, là. Hey, vous êtes nombreux à réagir ce matin
sur un hood de char.
Ah, mon Dieu, mais ça, c'est quand même un classique. Il y en a qui font ça avec une belle vue, là. Il y a des endroits, tu sais, qui sont réputés pour ça, hein? Le village fantôme au Saguenay, là, le nom m'échappe. Pas Val-Jalbert, l'autre, là. Il y a un village qui n'existe plus. Ça te dit-tu quelque chose que je te dis? Il y a une catastrophe naturelle, il y a plusieurs années, au Saguenay, puis il y a un village qui a complètement disparu, puis il y a des gens qui vont se stationner là spécifiquement pour ça.
Ouais, Gagnonville, au nord de Bécomo, fait que c'est pas ça.
C'est pas celui-là. 88-971-101, ça vous dit-tu quelque chose? Hey, le nom m'échappe, c'est tellement niaiseux.
Ville fantôme, Saguenay.
Ils vont sortir Val-Jalbert, c'est pas ça. Parce que ça, il est encore debout, puis c'est rendu quasiment un musée ambulant.
Ouais, ils sortent Val-Jalbert.
Ouais, c'est ça, hein? Non, mais c'en est un autre.
Saint-Jean-Viennet?
Ah, je pense que c'est ça.
Okay. Je pense que c'est ça. Je pense que s'il y avait eu un glissement de terrain à
ça se peut. Puis il n'y a plus rien là-bas. C'est rendu juste de la terre, là, puis des buttes. Puis vraiment, c'était un rendez-vous. Je me souviens, au cégep, il y a des gens qui ont se rejoint là, puis c'est là qu'on couche. Là.
C'est en quelle année, Saint-Jean-Viennet?
Hey, c'est une bonne question.
J'étais en vie à ce moment-là.
Mais c'est sûr,
non,
c'est sûr que tu étais en vie.
J'étais pas là. J'étais pas là. C'est 1971.
Ah oui, 4 mai 1971, tu as raison, glissement de terrain majeur.
Il y a déjà eu au Québec un glissement de terrain, puis je me rappelle que c'était arrivé pendant une game de hockey. Puis les gars étaient dans une des maisons qui s'est fait prendre, là, dans le glissement de terrain. Les gars étaient tous dans le salon, puis la maison est partie. Puis ils s'en ont tous sortis.
Ils s'en sont sortis?
Ouais.
Hé, Pelin, mais ça doit être épeurant, épouvantable. C'est ça, Saint-Jean-Viennet, c'est une subdivision de Chipcha, du secteur de Chipcha. Puis bien, écoute, ça a fermé le village complètement. Il n'y avait plus rien. Puis ça existe encore à ce jour, mais c'est juste un terrain où il y a vraiment rien. Là.
Hé, j'ai fait l'amour d'un ascenseur, je m'en rappelais plus.
Dans un ascenseur, il y a des caméras là-dedans.
C'est une bonne question. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait des caméras, mais c'était dans l'ascenseur panoramique du Concorde.
Oh, ouais.
Ouais. C'était compliqué parce que là, il y a comme 18 étages. Là.
Oui.
Fait que fallait que tu partes du rez-de-chaussée, tu tapes sur le 18.
En espérant que personne rentre.
J'espérais que ça sonne. Mais oh, oui, ça a bien Dieu. Fonctionné. Ouais.
C'est infime, ça, d'habitude.
En passant, j'ai fait des allers-retours, les mauvaises langues. Là.
Ah, ouais. Ouais. Je pense que l'endroit le plus funky, moi, ça a été un spa. Puis je regrette encore à ce jour parce que j'aurais vraiment pu pogner des infections quand tu y penses. Là.
Dans un spa?
Ouais, un spa public, là.
Ouais.
C'est pas tant le meilleur endroit.
Non, c'est ça. Un spa public?
Oui, il y avait... c'est pas ici, là. C'était à Montréal, en fait. C'est un spa qui s'appelle le Polar Bear. Puis t'as...
Polar Bear.
Polar Bear. Oui, je le prononce peut-être mal, là, mais c'est vraiment un ours polaire, là.
Non, mais tu sais ce qu'on dit des ours?
Qu'est-ce qu'il y a?
Ben, notre enquêteur de police hier.
Vas-y, non.
Polar Bear.
Polar...
Il y a des signaux qui manquent pas. Là.
Ouais, 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 non, c'est ça. C'était pas ça. C'était avec une personne que je connaissais bien. Mais c'était dans un... Ils ont comme des grottes où ce que la boucane du spa fait que tu vois pas grand-chose autour de toi.
Ouais.
C'est la piscine qui se poursuit. Là. C'est juste pour créer des endroits un peu plus intimes.
T'as fait des cochonneries, là?
Même, j'étais jeune. Je regrette.
Mais tu l'as fait pareil.
Je regrette pas. Non, c'est pas vrai, je regrette pas.
J'étais jeune, j'avais 18 ans.
Oui, mais c'était la beauté de ce que t'expliquais tantôt. C'est la beauté de ce que t'expliquais tantôt. Ça, ça dure pas longtemps. Ça a bien fait.
Ouais.
Ah, il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans des spas.
Des spas? Mais voyons donc. Ma vie est plate.
Bien, la mienne aussi, je te dirais maintenant, c'est assez tranquille.
Hey, tu voulais me parler? On a-tu le temps? 10h16
minutes. Mais Paul est arrivé.
Paul est là. OK, bien, on va parler avec Paul. Parce qu'on parle avec Paul Lévesque, qui est spécialiste du comportement humain. Elle est déjà très adorée, alors qu'elle a parlé, quoi, une ou deux fois sur les ondes de Boulevard?
Une fois.
Oui, je l'avais eu dans Marceau
Soir.
Ah, bon,
mais deux fois à ce moment-là.
Les auditeurs s'en souviennent. Donc, elle sera avec nous. Une fille super qui va venir nous parler de plein de sujets tout au long de l'année. Et puis, on parlera de d'autres sujets aussi cet après-midi. Tu voulais me parler de ce matin? Tu voulais me parler de 100 grammes, c'est quoi ça?
Ah, mon Dieu, 100 grammes. Tu veux que je t'en jase là?
Non, c'est juste pour le teaser.
C'est vraiment trippant. Écoute, si vous avez de la misère avec votre épicerie ce temps-ci, là, on a tellement parlé souvent des 1000 applications qui existent, puis vous nous en donnez à chaque fois, puis comment on économise, puis les circulaires, puis ci, puis ça. Il y a un nouveau site qui a été créé qui s'appelle 100grammes.ca. Puis honnêtement, pour moi, de ma vision, puis c'est positif, c'est un site de lâche. Fait que je vous en jaserai tantôt, mais c'est vraiment facile à utiliser. Puis si tu es habitué d'acheter tout le temps les mêmes affaires, les mêmes produits, les mêmes. C'est plus facile, je trouve, de faire ton épicerie avec ça qu'avec n'importe quelle autre application, pour vrai. Puis tu peux économiser quand même beaucoup de sous. Puis on pense pas au fait que souvent, les plus petits formats valent plus la peine que les grands formats. Fait qu'on s'en reparlera dans le show tantôt. Mais d'ailleurs, si vous en avez là, des sites, on est toujours preneurs 971-1.
Voilà, 971-1. C'est dans le 418, les amis. Nous autres, on s'en va en musique. L'excellent Jean Leloup, la vallée des réputations sur les ondes de Boulevard. À tous, un excellent jeudi. Fais attention à... 10h28, on vous l'avait promis, elle est là, elle est en studio. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, l'éducatrice spécialisée. Salut, Paul!
Hey, bonjour! Tellement heureuse d'être là.
On est content de te retrouver.
Oui, oui, c'est vrai.
Là, je constate que, bon, ils t'ont pas aidé pour ta chaise, là.
Voilà. Non, mais ici, ils mesurent tous 6 pieds 8 et plus. Là. C'est vrai. Quand j'arrive, c'est pas adapté.
Ouais, c'est ça. Mais on devrait être plus adapté pour les personnes de petite taille. On n'a plus le droit de dire non, hein?
Non, c'est plus bien.
Personne de petite taille.
Je vais te décevoir, mais ça part de 4 pieds 8 et je n'ai malheureusement pas le 4 pieds 8.
T'es à combien,
plus?
Là? 4 et 9?
Est-ce que je dois t'insister vraiment?
Ben oui.
Je fais 4 pieds 10.
4 pieds 10.
Sans talon, mais je porte souvent le talon. Alors, je dois aujourd'hui avoir le 5 pieds 1, assurément.
Ouais. Ça a-tu été quelque chose pour toi dans ta vie que
tu
as eu...
Tu commences de même.
Que tu as accepté très rapidement en disant, regarde, je ne mesurerai jamais 6 et 4, là.
Hey, non, mais...
Parce que pour une fille, c'est pas si pire, 4 pieds 8, 4 pieds 9.
Ben, je vais parler pour moi, là. Je ne peux pas généraliser. Mais moi, ça a été toujours un atout. En fait, c'est comme si j'ai dû développer... Tu sais, moi, donner un coup de poing sur la gueule, ça ne marchera pas.
Non, tu ne te rends pas.
Il n'est pas fou. Je m'excuse, je l'élève mal.
Moi, non, mais
je l'échappe, Paul.
Ben, j'ai essayé 6 ans, ça n'a pas marché. Audrey, occupe-toi de toi, ne t'acharne pas, ça ne marchera pas. Il faut finir par l'aimer tel qu'il
est. Oui, c'est ça, il faut l'accepter.
Ben, moi, ça a été plus d'avantages. Puis, tu sais, je réponds toujours... En me faisant pogner, là. Je pense toujours que c'est une vraie question, puis je réponds avec une réponse intelligente qui réussit à récupérer. Mais moi, ça a été un atout. Un, parce que j'ai dû apprendre à me défendre. Et à me défendre en m'affirmant. Parce que je pouvais pas donner une claque sur la gueule, tu sais. Puis moi, je suis pas une fille qui se laisse avoir, qui se laisse faire. Fait que j'ai développé ça. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup en délinquance, en santé mentale, tu sais. J'avais même quand je travaillais en psychiatrie, j'avais même un salaire ajusté à la hausse, un bonus qu'on appelle, parce qu'il y avait une clause de dangerosité, il appelait ça comme ça. Et je dois, jusqu'à maintenant, là, demain, je ne peux pas te le dire, mais ce qui est fait est fait. Les gens se faisaient frapper, se faisaient à côté dans le mur, et moi, on me protégeait. C'est comme s'ils se disaient, on la touche, elle, on la tue, fait qu'on y touchera pas. Il y a toujours eu comme un phénomène de protection.
Ouais.
Puis, je trouve que les gens viennent beaucoup près de moi. Ils vont me toucher. Tu sais, un peu comme un enfant, c'est pas menaçant, tu sais. Je trouve qu'il y a des... En tout cas, moi, j'y vois des avantages. Et je trouve que les petites personnes vieillissent peut-être moins vite. Non, mais...
Peut-être. Mais pour
j'ai l'impression... Parce que la caricature de l'enfant...
Ouais, c'est peut-être une impression, parce que moi, je joue surtout avec des gars, là, mais j'ai l'impression que pour une femme, trouver un partenaire quand on est petit ou de moyenne taille, c'est pas si compliqué que ça.
C'est pas compliqué.
Mais pour un gars, se trouver une blonde, quand il mesure 4 et 8, 4 et 9, 4 et 10, tu sais, des fois, il est pas trop porté à le dire au départ, s'ils se sont pas vus. Mais faut le dire, tu sais, hey, by the way, je mesure 5 pieds, là. Ouais. Ça te va dessus, parce que sinon, tu vas te rendre au rendez-vous pour rien.
Oui, je pense que c'est plus péjoratif pour les garçons, en tout cas pour les entendre parler.
Ça fait pas de mauvaise personne pour autant.
Ben non. Puis moi, mon mari, il fait plus de 6 pieds, là, tu sais, puis il trouve ça cute, les gens, tu sais, ils diront pas. Mais si c'était l'inverse, que mon chum faisait 4 pieds 10, puis moi, je ferais plus de 6 pieds, il y aurait assurément des commentaires.
Il y aurait des regards.
Alcalins, je
pense. T'as-tu déjà sorti avec des gars plus petits, Audrey?
Ah, mon Dieu, une grande fille. Majoritairement.
Oui.
Tu sais, mon chum, on a la même grandeur, puis je remercie bon Dieu, là, dans le sens que j'ai toujours été. Moi, je suis 5 pieds 10, si c'est pas 11, là.
Oui, j'avais remarqué. Puis moi, quand même.
Puis non, ça a toujours été un enjeu. Quand j'étais au secondaire, mettons, c'était dur, là, parce qu'on dirait qu'on... Je sais pas pourquoi on dirait qu'on se développe et on grandit plus vite aussi, là.
Les filles, oui.
Fait que non, j'étais tout le temps... J'avais plein d'amis qui étaient plus petites que moi, puis je vais pas dire jalousais, mais j'ai toujours un peu envié ça, puis c'est plate à dire, mais ça jouait sa confiance aussi, parce qu'on glorifiait beaucoup les filles qui étaient plus petites.
Tu vois?
Fait que moi, j'avais tout le temps une tendance à me renfermer les épaules, à essayer de débalancer mes hanches un peu pour perdre un pouce ou deux, là, tu sais. Je mettais pas de talons, je faisais bien attention. Fait que ça a joué, moi, sur l'affirmation de soi. Tu vois, c'est drôle.
Puis le problème avec les grands, qui sont grands petits, tu sais, ils sont jeunes, mais ils sont grands, c'est qu'on oublie qu'ils sont jeunes. Donc, on va accepter moins bien. Parle comme un grand. Tiens-toi comme un grand. Mon Dieu, il fait pas encore ceci. Oui, mais il a juste 5 ans, il a juste 10 ans. Tu sais, les grands, on va être portés à peut-être pas les identifier. Puis, tu as souvent remarqué des grands qui vont avoir porté à avoir le dos voûté, à... Tu sais. Moi, mon problème, c'est vraiment plus physique, dans le sens que, ben c'est aussi bête que j'atteins pas autre chose que la première... Là, je te vois rire. La première tablette, tu sais. Ouais. Non, mais j'ai des tibas, mais... Moi, c'est plus... c'est pas adapté.
Ouais. Moi, j'ai acheté une maison ancestrale, OK? Il y a ça quelques années dans le secteur de Lévis, puis... Je veux dire, j'étais à l'école, j'ai appris plein de choses, je trouvais ça très intéressant, mais je ne savais pas que les gens, anciennement, étaient plus petits.
Oui.
J'étais jeune, j'avais 20 ans quand j'ai appris ça. Là. Fait que là, les gens étaient plus petits. Ce qui faisait en sorte que les comptoirs étaient en bas de mes hanches. Je savais pas ça, mais les comptoirs étaient en bas de mes hanches.
Absolument.
Puis là, aujourd'hui, les nouvelles générations sont pour la plupart toutes plus grandes que moi. Puis je suis pas un petit gars, je suis à 5 et 10, 5 et 11. Là.
Oui.
Puis les nouvelles générations sont toutes à 5 et 11, 6 pieds.
Ouais, t'as 10 pieds 1, 7, 6 pieds 7 là.
Hein, ouais, il y a 10 pieds 7.
J'en connais quelques-uns, là.
Annie qui dit « Salut, j'ai 5 et 11, j'ai toujours voulu mesurer 5 et 6. Aucun gars voulait de moi. »
Mais c'est vrai.
Ouais.
Hey, moi, mon chum, c'est le premier gars qui me dit « Voyons, André, porte-le tes talons, assume-toi, tiens-toi droite. »
Oui, oui, oui.
Parce que j'osais pas mettre des talons, parce que je me disais tout le temps, quand je vais sortir dans une soirée, je vais avoir une tête de plus que mon chum.
Mais c'est parce qu'il a confiance en lui.
Ben oui, probablement que ça vient de ça, il s'en contrebalance.
Exact.
Mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui. Moi, j'ai un ex-copain que c'était ça, là. Mets pas de talons, s'il te plaît.
Allez. Ah oui, oui.
OK.
Oui, je pense que pour les hommes, c'est probablement plus un attribut difficile à vivre en société. Je pense que la société a un regard différent.
Bon. Et on a choisi tout un sujet ce soir, ma belle Paul, ce soir. C'est aujourd'hui.
Bon matin, hein?
Je suis encore dans notre temps.
As-tu pris ton café?
Non, ça me rappelle. À chaque fois que tu viens, ça me
rappelle. Il est malade, hein? Il est congestionné, ça bloque le cerveau.
Ça me rappelle les soirs qu'on passait ensemble à job. Hey,
spécialiste... Oui, tu as bien fait de spécifier, parce que là, il y a des rumeurs.
Ben, on salue ton chum. Hein? Spécialiste du comportement humain, on parle du syndrome du cerveau saturé.
Absolument. Ce qu'on appelle l'overthinking, qui est la nouvelle nomination, c'est le cerveau qui ne se met jamais à off. L'image que je pourrais apporter, c'est le hamster dans la petite roue qui tourne tout le temps et qui n'arrête pas, mais qui arrive nulle part.
On est tous susceptibles d'avoir ça, l'overthinking?
Je pense que oui. Je crois que les gens qui ont une propension à l'anxiété ont plus de propension à l'overthinking. Puis, tu sais, on pourrait définir, il y a des signaux. Il y a des signaux qui nous amènent à dire qu'on rentre dans une phase parce qu'on a tous une préoccupation un jour ou l'autre, on analyse une situation. L'overthinking, c'est quelque chose qui peut s'installer. Tu sais, t'arrives pas à reprendre le contrôle. Puis pour initier la rencontre, j'ai eu envie de prendre Boucard Diouf, que j'aime beaucoup. Qui disait, mon grand-père disait, tu sais, il dit souvent
mon grand-père me disait toujours.
Oui, t'as le bel accent. C'est quand l'homme voit un moustique se poser sur son testicule qu'il comprend enfin que tous les problèmes ne peuvent se régler par la violence. Donc, comment on fait pour arrêter de se faire violence? Parce que moi, c'est un peu ça que je vois. L'overthinking, ça fait mal. Ça fait souffrir. T'es pas dans une zone où t'es bien.
C'est pas confortable.
C'est pas confortable, puis ça peut même nous amener à perdre le contrôle.
Oui, puis souvent, ça amène à l'épuisement professionnel.
Absolument.
Parce que, ceux qui font de l'overthinking déjà, qui font des jobs qui sont très demandants, puis qu'en plus, on peut rajouter un petit TDAH, là, ça peut être un cauchemar juste de passer ces journées. Tu arrives à la maison, tu dois être complètement brûlé. Là.
Oui, puis tu n'es pas capable de faire autre chose. Puis j'avais envie de vous donner quelques signaux de l'overthinking. Pour se reconnaître.
Allons-y. Tu penses-tu que tu es cette candidate-là, toi?
Ah, 100%.
Ah, oui.
Oh, mon Dieu, moi, la tête arrête littéralement jamais. Puis j'aime bien le terme saturation du cerveau parce que c'est comme si à un moment donné, tu penses tellement que tu n'as plus d'espace dans la pièce. Les boîtes sont empilées, oui. Touchent au plafond, puis tu ne peux plus rentrer, là.
Oui, c'est une bonne image, comme un cul-de-sac. Mmh.
Je pense que je correspond aussi à ce profil-là, sauf après avoir fait l'amour. Là, je pense plus à rien.
Ah, mais c'est bon, Yann, fait l'amour plus souvent, plus. Ben oui,
moi, je pense que c'est notre recommandation à moi et Audrey. Remarque, avec l'âge, peut-être que ton potentiel diminue. Ça pourra faire l'attrait d'une autre chronique.
Ah, peut-être. Il faut que tu trouves d'autres trucs, éventuellement.
En fait, les signaux, c'est revoir mes erreurs en boucle. C'est ça l'affaire, c'est que ce n'est pas positif, ce n'est pas une analyse de situation qui est saine. L'overthinking est dans le négatif, c'est que tu revois sans cesse tes erreurs. Pourquoi j'ai dit ça? Comment ça se fait? J'ai dit ça, mais tu finis par voir que le négatif. Et ça grossit la situation. Peut-être que ce n'était pas si pire que ça, mais l'overthinking fait que ça prend de l'ampleur. Ça va atteindre le sommeil, souvent... C'est, avez-vous remarqué que quand ça commence durant une période de sommeil, c'est pire? Avez-vous remarqué que ce qu'on pense la nuit, c'est pire? Puis que le matin, on arrive et on se dit, voyons, ça se fait que j'ai passé la nuit sur ce dossier-là.
C'est qu'aucun stimuli la nuit à part ce qui se passe entre tes deux oreilles. T'sais. Tu ne peux pas te changer d'idée, tu ne peux pas regarder à quelque part pour te changer la tête de place.
Il n'y a pas de réorientation. Puis le soir, il y a comme un environnement qui t'amène à rester collé sur ce qui ne va pas. Mm. Les scénarios. On se fait plein de scénarios et puis on se pose 1000 questions. Tu sais, l'overthinking a peut-être commencé par une collègue ou un collègue de travail qui, depuis quelques semaines, ne semble plus être tout à fait le même ou la même avec toi. Au lieu d'aller vérifier, tu te mets à te faire plein de scénarios, tu te poses 1000 questions, puis là, ça part. C'est vrai, il ne m'a pas parlé de la même façon en réunion. C'est vrai, ce n'est pas assez à la même place que d'habitude. Puis là, tu pars, puis tu te crées des hypothèses. Donc, tu es constamment dans la création de scénarios. Mm. Puis ça, c'est tu sais, au fond, dans la vie, le cerveau, soit qu'il va créer des scénarios d'horreur, ou il va être dans la création d'éléments qui t'amènent à être en avancement dans ta vie. T'sais, l'overthinking, c'est que tu crées des scénarios d'horreur.
Mais j'ose penser à une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui fait de l'overthinking. Ça doit être un cancer dans sa vie, cette personne-là. Là.
Bien, tu le disais tantôt, on peut parler d'épuisement professionnel à moyen et long terme parce que tu n'es pas capable de décrocher. C'est comme si tu disais, je prends ma voiture... puis je roule et je n'arrête jamais.
C'est-tu relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité, ça, l'overthinking, la suranalyse, ou ça a toujours été comme ça à différents degrés?
Bien, ce qu'on remarque, c'est qu'on est une société d'anxieux. On est anxieux et on a une société qui nourrit la peur. Au lieu de nous enseigner le comment faire, on nous enseigne à avoir peur pour être capable d'amener des nouvelles idées puis d'amener le peuple à être tous dans la même lignée. Et au début du siècle, par exemple, les gens avaient bien plus de raisons d'être anxieux. Tu sais, aujourd'hui, on a le lave-vaisselle, le micro-ondes.
Oui, il me semble que notre vie se facilite, mais au final, elle se complique.
Bien, il y a beaucoup d'anxiété de performance. Tu sais, à l'époque, là, tu te levais et tu travaillais manuellement pour la plupart. Puis, tu étais centré parce qu'on sait que le travail manuel nous aide justement à calibrer au niveau de l'anxiété. Et tu étais tellement préoccupé à survivre. Parce que s'il n'y avait pas de patates que tu cultivais, tu mourrais. Là. Tu ne pouvais pas aller au métro en chercher là, ou n'importe quel. Tu étais tellement préoccupé à ta survie. Et on remarque que les peuples qui sont très préoccupés par leur survie ont moins d'anxiété parce que toute ton énergie est mise à survivre. Tu n'as pas le temps de commencer à te poser des questions. Tu vas trouver des solutions parce que tu dois avoir la patate dans ton assiette. Puis c'était ça au début du siècle. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de l'anxiété. Mais... Puis, ce que je remarque, c'est qu'il y a de l'anxiété plus jeune aussi. Puis, le fait qu'on a beaucoup plus d'ouverture, c'est qu'on savait ce qui... On était plus un peuple qui ignorait les choses, mais on ignorait ce qui allait mal aussi. Tu connaissais ce qui se passait sur le perron de l'église. Là, tu sais qu'il y a une guerre, tu sais qu'il y a ci, tu sais qu'il y a...
Ouais, c'est le monde entier qui est connecté ensemble.
Ensemble. Fait qu'imagine, ça nous amène une ouverture extraordinaire. Tu sais, ce qu'on gagne d'une main, des fois, on le perd un peu de l'autre. Puis on est beaucoup, beaucoup dans l'anxiété de performance. On est beaucoup dans la comparaison.
Mais pourquoi? Hein? Pourquoi on s'impose ça?
Bien, je te dirais que on a créé un univers. Tu sais, les gens me disent, Paul, les enfants ont tellement changé. La vie a tellement changé. Pour nos jeunes, on ne les reconnaît pas. Un bébé qui vient au monde, c'est un bébé rose comme à l'époque. Là. Ce qui fait qu'il est différent, c'est qu'il est en immersion dans une société. Société de consommation. À l'époque, là, je reviens là-dessus, on cultivait toutes des patates. On pouvait cultiver qu'il y en avait une plus grosse que l'autre, mais là, tout le monde était pauvre ou presque. Il y avait les très, très riches, puis il y avait le peuple. Puis à l'école, on était tous habillés pareil, puis ou presque. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a un mode de comparaison. Puis, c'est comme si c'était jamais assez. On court après le bonheur sans réaliser que le bonheur, c'est dans les petites choses. Alors qu'à l'époque, on avait tellement rien que le jour où on avait du beurre sur nos toasts, on se disait « Wow, c'est tellement bon ». D'ailleurs, avez-vous remarqué que quand on est malade puis qu'on n'a plus de santé, le jour où on reprend la santé, qu'on reprend le goût à manger, qu'on reprend le goût, on fait « Wow ». Tu sais, moi, j'ai été hospitalisée pendant longtemps. Quand je suis sortie, j'étais dehors. J'attendais mon chum qui avait été chercher la voiture. Puis j'étais proche d'un truc d'autobus. Il y avait de la boucane d'autobus. C'était le matin, tu sais, tout le monde était en train de prendre l'autobus. Puis j'ai dit, waouh, ça sent tellement bon. Finalement, pour m'apercevoir que ça sentait l'autobus. Mais c'était juste être dehors. Mais on ne l'apprécie plus. Ouais. On s'arrête plus.
Je lisais, ça fait une couple d'années, j'avais lu un des livres d'Eckhart Tolle. Je pense que c'est ça son nom, Eckhart Tolle. Puis il mentionnait que la majorité des gens qui nous entourent, puis je pense qu'il s'incluait peut-être à ce moment-là, avant qu'il ait sa fameuse illumination, là, dont il nous fait part dans son livre, il mentionnait que la majorité des gens sont dans le futur ou dans le passé.
T'as raison.
Très peu sont sur la journée même.
T'as raison, oui.
Puis je pense aux mères de famille, puis la mère de mes enfants est comme ça. Elle est tellement planifiée. Là. Tout est fait. Elle sait exactement ce qu'elle va faire dans les 2, 3, 4 prochaines semaines. C'est une femme d'affaires maintenant. Puis elle est tout le temps extrêmement structurée. Puis ce que Eckhart Tolle mentionnait, c'est qu'on devrait tous y aller, si possible, au jour le jour, plutôt que de tout le temps ressasser le passé ou encore se dire qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Je vais-tu avoir assez d'argent pour ma retraite? C'est bien de le faire, mais quand ça devient comme... trop, ça prend trop de ta tête ou de tes pensées, tu devrais commencer à t'observer et te dire qu'il faut changer les choses.
Vrai. Mais ça dépend comment tu utilises le passé et le futur. Si tu utilises le passé pour apprendre, comprendre, évoluer, il y a un homme d'affaires qui m'a dit, « Paul, si tu fais jamais d'erreur, je te congédie. Si tu en fais trop, je te congédie, c'est que tu n'as rien appris. » Donc, le passé doit nous servir à apprendre. À évoluer. Si tu t'en sers pour avoir des remords ou des regrets, c'est sûr que tu n'es pas à bonne place. C'est sûr que le futur, il faut le planifier un peu. Avoir des projets, c'est positif, tu comprends? C'est se projeter dans le futur, mais si tu te projettes pour être dans l'anxiété d'appréhension, il va arriver quoi dans 2 jours, il va arriver quoi? Puis on n'a plus d'espace-temps. Hein? Tu parlais de ta conjointe, ton ex-conjointe. Oui, la mère de tes gars. Quand on est trop structuré, ça ne laisse pas de place à qu'on n'avait pas prévu. Et là, on sent que les gens tombent comme des mouches parce qu'ils sont tellement serrés, là, tu sais, dans tout. Dès qu'il arrive un petit imprévu ou quelque chose, il n'y a plus de place.
En même temps, c'est dur de faire autrement parce que les gens ont des attentes. Tu sais, dans nos emplois, maintenant, on est tellement, justement, efficace que on ne s'attend pas à moins de toi. Tu sais, c'est dur de trouver le temps puis les solutions pour faire cette place-là mentalement, je trouve.
Bien, c'est là qu'on se questionne aujourd'hui. Puis je crois que...
Parce que t'as l'air large, Paul, on va se le dire. T'sais, si tu vas voir ton employeur et tu te dis « Je m'excuse, moi, j'essaie de retrouver un équilibre là, mental là, puis de vie, puis j'essaie de faire de l'espace dans mon cerveau, j'ai pas l'impression que t'as beaucoup d'employeurs qui vont faire être raison. »
Mais tu peux dresser tes limites à ton employeur.
C'est ça que 2024, je pense.
Tu peux dresser tes limites. Là, oui. Il y a des employeurs qui s'attendent que pour un 20 $ de l'heure, tu travailles 7 jours sur 7 pour eux autres, puis ils peuvent te rejoindre à 23 h le soir, il faut que tu sois disponible. Mais tu dis « Moi, je vais être le meilleur employé que tu veux. »
Mais c'est quand même mal vu, je pense.
Entre telle heure et telle heure. De moins en moins. Ça dépend des domaines, je pense.
Oui, puis je pense que l'équilibre, c'est pas une bonne gestion du temps, c'est une bonne gestion de tes limites. Puis ce que ça veut dire, c'est pour être plus efficace encore, il faut être capable de gérer ce qui se passe dans tes deux oreilles. Parce que tu peux avoir l'impression que tu as travaillé beaucoup, mais tu as passé 3 heures sur une patente. Quand tu es trop perfectionniste, tu t'égares tous les petits détails, puis tu refais 100 fois, puis 100 fois, puis 100 fois. Tu as l'impression d'avoir travaillé beaucoup. Mais l'idée, c'est quand on est capable de calmer cette anxiété de perfectionnaliste-là, puis cette espèce d'hamster qui court tout le temps, tu es plus efficace. Tu sais, il est prouvé que si tu prends après une heure et demie, une pause, tu vas être plus efficace à ton retour, mais tu vas faire de l'acharnement en disant « faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille ». Puis je pense que au contraire, si tu es capable de t'affirmer puis mettre tes limites, tu vas être beaucoup plus respecté de ton employeur. Ça ne veut pas dire que tu es lâche, ça veut dire que tu organises ton travail autrement. Ce n'est pas de travailler moins, c'est de travailler autrement. Tu sais, ma grand-mère, elle disait « c'est pas le travail qui tue, c'est la façon dont tu le fais ». C'est la façon dont tu es libre dans ta tête. Être libre dans sa tête veut dire être capable de laisser de la place justement pour créer une machine à solution, être capable. Sinon, tu fais du surplace. Tu fais l'effet trampoline. Tu sautes, mais tu es toujours à la même place.
Pour ceux qui ont le syndrome du cerveau saturé ou encore de l'overthinking, est-ce que de se concentrer sur un sport, sur un loisir ou sur l'art, il y en a qui sont des artistes, est-ce que c'est une belle façon ça, de se sortir un peu de l'overthinking? C'est-à-dire que là, tu as un sport à faire, sport d'équipe, puis tu penses pas à ta job, tu penses pas à ta famille. Là, on est dans le moment présent.
Absolument.
Puis on doit jouer ensemble.
On dit que les plaisirs, c'est l'élément le plus apte à nous ramener dans le moment présent. Le plaisir. Ce qui nous fait plaisir. Tu sais, je sais pas, moi, si tu aimes le sport à folie et tu es en train de faire le sport, ben tu peux pas être ailleurs que là parce que tu tripes. Parce que tu aimes ça, parce que tu es content. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yannick, j'avais déjà proposé aux auditeurs, quand on était ensemble, de faire la liste de leurs 30 plaisirs. Puis là, il y avait plein de monde qui avait écrit « Pour les folles, 30 plaisirs, qu'est-ce que c'est ça? » Un minimum de 30 plaisirs. Et c'est justement quand tu sens que le hamster, il a mis ses chouclaques de feu, là, puis tu n'es plus capable de décrocher, il faut que tu fasses un reset. Et une des bonnes façons de faire un reset, c'est de choisir un de tes plaisirs. Ça peut être juste de te lever et d'aller te faire un allongé. Ça peut être juste d'aller te mettre de la crème à main. Ça peut être... Là, je vais essayer de prendre quelque chose de masculin, mais tu sais, l'idée là-dedans, c'est plus on fait de l'overthinking, plus on est dans l'acharnement. Et cet acharnement-là nous amène nulle part, c'est un cul-de-sac.
Est-ce que les gens sont capables de s'observer quand ils font de l'overthinking? Parce que, mettons, il peut y avoir plein de techniques, là, mais je reviens au livre d'Eckhart Tolle. J'essaie de me rappeler du livre. Je pense que c'était « Le pouvoir du moment présent ». Peut-être juste vérifier, là, Eckhart Tolle, « Pouvoir du moment présent ». Lui, ce qu'il disait...
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça. Ce qu'il disait, c'est que il y a la personne physique, il y a la personne, le cerveau et tout ça, mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui t'observe, qui est quand même toi-même. « Hey, t'as-tu vu comment tu te parles? T'es toujours négatif. » As-tu vu comment est ta vie présentement? T'es en train de faire de l'overthinking, t'es brûlé. Va faire quelque chose que t'aimes pendant un certain temps, puis reviens. T'sais. Plutôt que juste être deux personnes, là, j'essaie de le résumer, ce qu'il dit, c'est un peu plus intelligent que ce que je suis en train de te dire. Là. Mais lui, il dit, savoir s'observer, c'est la meilleure des façons de faire pour continuer, puis à trouver peut-être le moment, le fameux moment présent auquel tu t'attends.
Ouais, ben, on pourrait résumer ça en disant, puis c'est très intelligent, c'est être dans la vérité. Très souvent, on va être dans le déni. On va être... Parce que réaliser des choses, c'est l'obligation de changer des choses. Donc, être dans le déni, c'est rester à la même place. Et souvent, on va se trouver plein d'excuses. Oui, mais...
Il y en a qui ne trouvent pas ça efficace non plus. Tu sais, qui se disent, s'il faut que je réfléchisse au fait que je réfléchis trop, j'ai pas de temps pour faire d'introspection personnelle. Tu sais, fait qu'il y en a qui s'arrêtent à ça, j'ai le sentiment aussi, là.
Ben, tu sais, il y a des saboteurs.
Ils sont bien dans le marbre.
Oui, ils ne veulent pas changer.
Non, mais c'est vrai, il y en a qui essaient tout seuls parce qu'ils tombent dans leur tête, puis pour eux, c'est un cauchemar parce qu'ils ne savent pas par où commencer.
Mais ce qu'il mentionnait dans son livre, moi, je l'ai créé. Tu sais, je le sais des fois que ça ne va pas super bien mentalement. Fait que va courir, va au gym, fais d'autres choses que de penser au travail, fais d'autres choses que de penser à un peu ma fin de semaine, comment je vais faire pour me rendre à la même heure dans deux arénas différents. Je suis seul, il n'y a pas personne qui est là pour m'aider.
On m'avait déjà donné...
Arrêtez, tout simplement, de réfléchir à ça. faire un 60 minutes intense dans quelque chose que t'aimes, que ce soit de l'art, un loisir ou encore du sport. Puis après ça, tu reviens puis t'as les esprits plus clairs. Puis on dirait que t'es reposé, même si t'as fait du sport. T'es supposé être plus fatigué, on dirait que t'es reposé.
On m'avait déjà donné aussi, puis Paul, tu pourras confirmer, mais le truc de juste changer d'environnement. Tu sais, mettons là, que, je sais pas, t'es saturé au travail, puis tu surréfléchis, ça avance pas, justement, t'es pas efficace. Si tu travailles tout le temps, mettons, à ton bureau, ben va donc essayer de travailler au café en bas, voir. De changer d'environnement, ce que ça va laisser comme espace dans ta tête. Je sais pas si c'est quelque chose que
tu partages. C'est de la réorientation, tu sais. Des fois, je dis, mets juste ton manteau, va dehors. Juste la réorientation. Puis je vous en avais apporté quelques petits éléments pour être capable de travailler sur l'overthinking qui est assurément un poison parce que c'est de l'anxiété. Puis, tu sais, il y a une différence entre... Puis ce que tu disais, Yannick, on appelle ça la narration. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas. On va devenir un narrateur de sa vie. C'est comme si on se regardait et on se disait, « T'es-tu encore en train de travailler à minuit soir, là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Moi, je fais ça, je fais comme la narratrice, je dis, voyons, maudite fois, tu fais quoi, là? Tu sais, sors de ce corps, puis c'est même pas une réflexion, c'est comme une photographie. Tu réfléchis pas, là. Tu photographies, tu fais comme une prise de conscience rapide, dis, voyons, je suis encore en train de faire ça, moi?
Oui.
C'est ça, là? Tu sais, comme... Puis l'idée, c'est la vérité. Une prise de conscience, c'est d'être dans la vérité. C'est juste de voir ce qui est là avec le plus de vérité possible, le plus d'humilité possible. Puis souvent, le manque de confiance en soi, la peur d'être jugé des autres, la peur, c'est souvent la peur de perdre, de ne pas être à la bonne place. C'est souvent la peur. Puis de prendre conscience de cette peur-là nous aide aussi à la contrôler. Tu sais, la peur, c'est comme une bête. Tu peux y claquer à la fesse puis le renvoyer dans la caverne. T'sais. Parce que vous remarquez qu'à toutes les fois que vous êtes dans l'overthinking, c'est que vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vous hanter. « Ouais, mais si j'en fais pas autant, il va arriver ceci. » Puis, comment on fait pour mettre le bouton stop? Est-ce possible? Oui, il y a des moyens pour nous aider à reprendre. Parce que moi, je pense que l'overthinking, c'est une perte de contrôle. Comment on fait pour reprendre le contrôle? Reprendre le contrôle veut dire, je suis sur la glace, je suis en train de glisser. Bon, comment je fais pour ramener le volant doucement, sa route? Comment je fais pour me ramener? Une des choses, c'est se déposer. On sait que se déposer, c'est une façon de prendre ce qu'il y a dans ta tête. T'sais, l'image, c'est, tu prends dans ta tête là, ce qui n'arrête pas et tu le déposes à quelque part. Et le déposer peut prendre plusieurs images. Ça peut être, par exemple, écrire. Combien de gens sont préoccupés par plein de choses dans leur tête, juste déposer ça pour faire une liste. Puis le but, ce n'est pas d'aller au bout de la liste, ça, je l'ai dit souvent, là. Tu comprends? C'est dépose. Ça peut être juste de prendre quelqu'un et dire, assis-toi devant moi, ferme ta gueule, donne-moi pas de conseils, puis fais juste m'écouter. Parce que c'est ça, on est dans une société où de fast-food, on ne prend plus le temps de s'écouter. On ne prend plus le temps juste d'accueillir l'autre. Des fois, les gens disent, mais je ne saurais pas quoi dire. Tu n'as rien à y dire. Écoute. La plupart des gens veulent juste dire, accueille-moi sans me juger. Ferme ta gueule, puis écoute-moi, là. Puis ça va tellement me faire du bien parce que ce que je vais avoir déposé, je l'aurais pu. Ben, en tout cas, vous remarquerez, ça aide énormément. Puis, dans un autre ordre d'idée, se donner la permission de l'overthinking pendant un intensif pour s'en débarrasser. Je vois Audrey qui dit, « Ah oui, ça pourrait être bon peut-être.
» Je t'écoute. Oui.
Tu prends une minuterie ou un sablier. On appelle ça rentrer dans l'émotion pour être capable de la gérer. Au lieu d'essayer de dire, « Ça n'existe pas, je vais être bon, on arrête. » Au lieu de la fuir, on rentre dedans pour en sortir. Donc, tu prends un sablier, une minuterie, donne-toi 20 à 30 minutes, pas plus. Et là, tu dis, je me donne la permission de vivre cette émotion-là. OK? Je pense à tout ce qui me fait peur par rapport à ce sujet-là. Si j'ai de la peine, je sors les photos, puis la musique, puis j'ai de la peine, tu comprends? Puis je pleure, puis je suis pas bien. Mais c'est comme si tu donnais à ton cerveau la permission de le faire pendant 20-30 minutes.
Moi, j'ai une playlist. De
façon intensive. Mais après ça...
T'as une playlist pour pleurer?
Oh, oui, j'ai une playlist que je sais que c'est une switch. Là.
OK, t'écoutes-tu des films aussi uniquement pour pleurer?
Non, ça, je fais pas ça parce que c'est niaiseux. Hein, les images, on dirait, restent. Puis j'associe trop ça à des affaires de ma vie. Puis ça vient trop me jouer en dedans. J'écoute pas beaucoup des films puis des séries à cause de ça.
Ah, ouais.
T'as une playlist pour pleurer. Elle s'appelle comment?
Absolument. Braillage, là. Une playlist pour brailler. Là. C'est vraiment ça, là. braille.
Est-ce que tu l'utilises souvent, Audrey?
Moi, je suis très dramatique. Hein. Quand ça va vraiment plus, là, moi, je fais beaucoup de route, fait que je l'utilise pendant mon 45 minutes vers Deschambault, mon 45 minutes vers ici. Fait que quand il y a comme un trop-plein, là, ouais, je l'utilise comme pour déclencher. Là, ça sort la rage, j'arrive chez nous, puis je fais le mieux.
Ben c'est ça.
C'est pas niaiseux, là, c'est tellement qu'éternel.
Non, mais
là,
c'est mais... ça. C'est exactement ça que je décris. Tu donnes cette permission-là, tu provoques un événement pour dire... Là, on sort le trop-plein, puis mais on passe à autre chose après, par exemple.
Mais ça revient à aller jouer au hockey, 60 minutes.
Oui.
Ah, c'est te libérer. Puis,
tu te libères différemment.
Je sais pas, je vais faire un mélange de tes deux trucs que t'as donné, Paul, parce qu'on m'a déjà fait quelque chose qui... Ben, honnêtement, ça m'avait vraiment joué en dedans, mais peut-être que c'est une bonne chose de le faire à ce moment-là. Une fille m'avait dit « Je te donne 3 minutes. » OK. Et le principe, c'était tu mets le cadran. C'était une consultation que j'avais fait un peu spirituelle pour tester, puis j'en avais jasé à Yann en onde. Puis en gros, elle m'avait donné 3 minutes, puis elle m'avait dit « Pendant ces 3 minutes-là, je veux que sur une feuille blanche, t'écris tout ce qui se passe dans ta tête. » Puis là, ben, c'était redirigé. Fait que, ça peut être sur la suranalyse que tu fais d'une situation, une peur que tu as, la vision que tu as de toi-même, n'importe quoi.
Écriture émotive.
Écriture émotive, ouais, on peut l'appeler comme ça. Fait que là, pendant 3 minutes, il fallait que, bon, dans ce cas-ci, moi, j'écrive tout ce que je suranalysais sur ma propre personne. Tous les jugements que j'avais à mon endroit, ce sur quoi, mettons, je me tape ça à la tête au quotidien.
As-tu eu beaucoup de pages?
J'ai eu un petit, c'est un petit pad, là, puis je l'ai rempli, okay. Je l'ai rempli recto verso. Puis c'est tough parce qu'au début, le minuteur passe, puis là, tu te dis comme, OK, j'écris quoi, tu sais, tu t'en quasiment niaiseuse. Puis là, OK, tout ce que j'ai peur au quotidien, j'ai peur de pas être pris au sérieux, j'ai peur de... Bon, là, j'ai tout noté ça, puis là, après ça, elle, fallait que j'y lise, tu sais. Puis je me suis rendu compte à quel point ça me poignait en dedans, parce que quand je suis venue pour y lire ces énoncés-là, ça a bloqué, là. J'avais vraiment beaucoup de peine, là. Je me rendais compte. Ça m'a permis de sortir un peu. Tu sais, tantôt, tu disais être capable de faire un scan de soi-même. Ouais. Ça m'a permis de réaliser en lisant la feuille que, hey, mon Dieu, je dirais jamais ça à quelqu'un. Fait que pourquoi je me permets de me le répéter tous les jours? T'sais?
Très bon. Fait on est notre pire bitch, je pense.
Ah,
hein?
C'est épouvantable.
C'est épouvantable. Ah! Tu sais, des fois, là, en conférence, ben là je vais le dire, je vais le taire pendant un an en conférence parce que je viens de brûler le punch. Des fois, en conférence ou en groupe, je vais demander aux gens de prendre une petite fiche et de penser à quelqu'un qui aime plus que tout au monde. Et de lui écrire un message sur la petite fiche qui va rester un message qu'ils vont garder... que tu vas donner à la personne. Puis quand la personne n'ira pas bien, quand elle va être en doute, tu sais qu'elle va avoir besoin d'une tape sur l'épaule, c'est ce message-là qu'elle va lire. Donc, les gens commencent, cher Yannick, et bon, ils écrivent leur petite fiche. Puis après ça, bien sûr, je leur dis de changer le nom puis de mettre leur nom à eux et de lire la petite fiche. Et c'est assez incroyable ce qui se passe. Des gens qui pleurent, tu sais, ils se rendent compte que ce qu'ils disent aux autres, ils ne se le disent pas à eux-mêmes. Puis qu'ils ont même de la misère à se le dire à eux-mêmes. T'sais? Fait que, oui, prendre conscience de comment on se parle, puis je pense qu'on peut être notre pire bitch. Autre élément, Yannick, tu vas reconnaître 2 mots. J'essaie d'être originale, mais il y a des bons principes qu'on garde quand même. Là. 2 mots. Est-ce que c'est plate ou c'est grave?
Ah, c'est bon, ça!
Fonctionner avec ça, ça a fait un hit. Là. Maintenant, les gens me rencontrent au centre d'achat et me disent « Hey, plate ou grave, l'utilise! » T'sais, c'est comme rendu ma marque de commerce. T'as posé la question. Si tu plates ou grave, vient comme désamorcer. Et dans 98,8%, c'est juste plate. Faire une crevaison sur le bord de l'autoroute, c'est plate. Faire une crevaison à minuit sur le bord de l'autoroute, c'est très, très plate, mais ça reste plate. Faire une crevaison dans le Bronx, à New York, en pleine nuit, bon, là, je suis plus sûre, on est à quel niveau.
C'est très grave.
mais à partir du moment où tu identifies que c'est grave, tu vas être perdu dans ta tête. Parce que tu vas être désorganisé et tu vas être en système d'urgence. Et je trouve que, pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi dans notre société actuellement, c'est aussi un des éléments qu'on remarque, les gens se sentent beaucoup en sentiment d'urgence. Sentiment d'urgence à répondre sur le téléphone, sentiment d'urgence à... Tu sais, on est comme toujours en sentiment d'urgence, comme si on était toujours des cardiologues en train d'opérer à quelqu'un.
On est toujours en état d'alerte.
Oui. Et ça amène l'overthinking. Tu comprends? Parce que ça déclenche l'obligation d'être performant et de se questionner. Donc, utilisez 2 petits mots à partir de maintenant. C'est-tu plate et grave? Puis même avec les petits, quand je me retrouve avec les petits, c'est assez surprenant de voir qu'on peut l'utiliser avec tout... Puis tu sais, un jour en conférence, durant la pandémie, il y avait des moments où les salles ouvraient, là, qu'on pouvait être 250, puis ça refermait.
Ouais.
Puis durant la pandémie, il y a eu un moment où j'ai donné une conférence, puis on pouvait pas être plus que ça dans la salle. Tu sais, il y avait des limites, là. Puis, je suis en train de parler de l'anxiété, je suis en train de parler de plate ou grave. Mais là, je suis en train d'en parler alors qu'on est dans un fiume anxieux généralisé, là. OK? Donc, il y a beaucoup de réactions non-verbales dans la salle, hein, parce que les gens... Puis, il y en a une qui ne peut pas se retenir, puis qui va peut-être se reconnaître, mais qui se lève, puis qui dit... C'est bien beau tout ça, mais ça se règle pas tout par plate ou grave. La pandémie, toi, trouves-tu... C'est bien beau ce que tu dis. D'ailleurs, quand les gens commencent par « c'est bien beau ce que tu dis », je
sais. Tout
le
temps négatif.
Oui. Je sais, je me prépare déjà à la... Puis là, elle me dit ça, puis elle dit « c'est bien beau tout ça ». La pandémie, c'est-tu plate ou grave? Mais là, on est en pleine pandémie, là. On est comme dans un... Tu sais, il y a une vague, là, où on... plus basse, mais là, on est... Puis là, t'as comme 249 yeux qui sortent... Non. De paire de yeux qui me regardent puis qui attendent ma réponse. Tu sais, je le sais que c'est une colle, là. Puis j'ai dû réfléchir. Puis voici ma réponse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, j'ai dit la pandémie, c'est juste plate. Parce que si tu considères que c'est grave, tu vas être chez vous, tu ne pourras plus bouger. Si tu es intubé aux soins intensifs à cause de la pandémie, là, c'est grave. Et là, on est tous dans la capacité d'analyser les situations dans l'instant présent. Je reviens avec ce que tu disais, Yannick. Mm-hmm. Oui, mais Paul, si je me retrouve intubée, là, ici et maintenant, puis moi, tu sais, souvent, tu sais, on a beaucoup dit « ça va bien aller », puis ça n'a pas bien été. Moi, tu peux plus me dire ça, ça va bien aller, ouais. Je déteste ça. Mais de dire « ici et maintenant, tout va bien », je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 3 minutes, mais là, là, ici et maintenant, tout va bien. On ramène l'esprit, puis tu nommes ce qu'il y a autour de toi. Bon, ici et maintenant, Audrey... Jolie, à côté de moi, elle a une robe blanche. Yannick, il est un petit peu moins, il est enrhumé. Non, non, mais... il est cute, pareil. Mais tu nommes ce qu'il y a autour de toi pour te ramener dans l'instant présent. Je mange avec quelqu'un qui a une sandwich aux œufs, il y a un petit peu de mayo sur le bord de la bouche. Et tu finis par « ici, maintenant, tout va bien ». Oui, Paul, dans 3 semaines, avez-vous remarqué que la téléportation n'existe pas? Et une des pires anxiétés, c'est l'anxiété d'appréhension. Parce que t'as pas de pouvoir d'action. Même si tu me dis « Paul, dans 3 heures », je suis pas là dans 3 heures. Moi, mon seul pouvoir d'action, c'est dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me préparer dans 3 heures? Mais ici, maintenant, tout va bien. Et avez-vous remarqué que quand on arrive à l'événement qu'on appréhendait, ça se passe souvent mieux qu'on pensait?
Ça va? Oui, mais je veux dire, le cerveau est fait qu'il doit se préparer pour ce qui va arriver de pire constamment, mais en même temps, ça devient pratiquement une nuisance quand ça prend toute ta vie, ça prend ton 24 heures sur 24, ça te suit au travail, ça te suit à la maison, ça te suit quand tu dors. C'est un calvaire, c'est un cancer, en fait.
Oui, hein? Oui, puis dites-vous qu'on doit démêler certitudes et hypothèses. Se préparer pour toutes les hypothèses qui pourraient y arriver, tu vas virer fou. Ça finit plus, les hypothèses. Te préparer à une certitude, c'est autre chose. Si tu sais que tu passes un examen important à l'université, c'est une certitude que tu passes un examen, prépare-toi. Mais si tu te prépares à l'hypothèse que peut-être que c'est la fin du monde dans 3 jours, peut-être que je vais perdre mon chum et il va m'être infidèle dans 3 semaines, c'est des hypothèses.
Ça n'existe pas.
Et ça finira pas. Et c'est un peu ça, l'overthinking. Hein? L'overthinking est beaucoup dans les hypothèses. Alors que la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est les certitudes.
Je trouve qu'il y a une ironie, Stéphane, qui nous envoie un gros truc que j'ai d'envie pour me relever. C'est toujours de me comparer avec quelque chose de plus grave. Puis pour certaines personnes, ça marche, mais je trouve ça ironique parce qu'en même temps, on essaie aussi d'arrêter de se comparer au quotidien, tu sais. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe-là de tout le temps dire, ben tu sais, au moins... Je sais pas, j'ai pas perdu mes 2 jambes, là, je suis encore fonctionnel.
Ça donne quand même un billet de proportion. T'sais. Moi, je me souviens qu'avec mes gars, à un moment donné, une fin de semaine où j'étais... Écoute, il a fallu que je sorte sur le perron tellement que j'étais plus capable de les endurer. Là. Je me suis dit, prochaine étape, c'est je les mets sur le bord du chemin, j'écris « à donner ». Fait que j'étais sur le bord du chemin. Puis j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais qui est actuellement à l'hôpital au centre mère-enfant, puis que son enfant luttait pour sa vie, puis il l'accompagnait depuis des mois et des mois. Puis je me suis dit, hey...
Les tiens sont en santé.
Ta situation, là, est grave à tes yeux, mais des situations encore plus graves. Fait que reprends sur toi. Dans ce cas-ci, tout comme Stéphane qui nous a écrit, moi, ça m'avait aidé. Puis des fois, je repense encore à ça.
On appelle ça relativiser.
Hein? Ben oui.
Ouais, j'ai la grippe, mais garde, je suis pas en train de traiter un cancer aux soins intensifs.
Exact.
T'sais? On appelle ça relativiser. C'est un moyen parmi tant d'autres. Puis si on voulait... avoir une combinaison parfaite, puis parler de moyens positifs qui s'ajouteraient à ce combo-là. On pourrait dire aussi que ce qui fait du bien, c'est d'avoir une histoire qui finit bien puis qui est dans ce que je suis en train de. Tu comprends? Donc, par exemple, si on prenait le même exemple, je suis sur le balcon. D'ailleurs, vous savez pourquoi les familles de 12, le papa et la maman fumaient toujours, hein?
Comment ça?
Mais parce qu'il n'était plus capable de les endurer. Fait que quand il allait fumer dehors, il les laissait tranquille. C'est vrai, c'est ça!
Ça les ramenait au moment présent.
Puis quand tu parles avec eux, puis tu sais, papa fumait un peu, puis ça, c'était très, très longtemps qu'il fumait. Fait qu'il restait longtemps dehors.
Mais c'est encore beaucoup un exemple que les fumeurs donnent aujourd'hui. C'est mon moment.
Ben, ouais. Mais oui, mais ça vient de là. Pour vrai, personne vient m'achaler.
Il nous disait, je vais aller prendre l'air.
Ouais, c'est ça.
C'était ça. Mais le pendant positif, c'est de prendre une histoire qui finit bien. Par exemple, ce qu'on appelle du déjà-vu. Yannick, t'aurais pu être dehors et dire, OK, là, je me sens comme ça, mais je sais que c'est... que cette situation-là va bien finir, c'est-à-dire qu'à soir, on va être avec un pop-corn devant le film, puis les enfants vont s'être calmés, tu comprends? Fait que, puis des fois, quand tu vas pas bien, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ma tante a déjà vécu ça, puis c'est sûr, prends pas une histoire qui est pire, ton chien va pas bien, oui, c'est vrai, la voisine, il y avait la même chose, son chien, puis après un médicament, ça a bien été. C'est sûr, si tu prends l'exemple de son chien mort, tu comprends que c'est pas bon, là. Mais ça peut nous calmer des histoires qui finissent bien aussi. Puis, ce que tu dis, Audrey, l'exemple de l'auditeur, c'est qu'il relativise. Il remet en contexte pour justement ramener ça. On appelle ça le thermomètre de gravité, si j'avais à mettre une image. Thermomètre de gravité, c'est qu'on fonctionne avec un thermomètre où le 5 est en haut puis le 0 il est en bas. Okay? Le 5, c'est le top. Et très souvent, quand on fait d'overthinking, l'anxiété, qu'on va pas bien, c'est que notre thermomètre de gravité est à 5. C'est-à-dire qu'on regarde la situation, puis on a l'impression... Parce que 5, t'es mort. Tu vas pas là souvent. 4, t'es aux soins palliatifs. 3, le feu a pogné chez vous, la maison est finie, mais toi, tu t'en es sorti. Donc, la plupart des choses qui se passent, c'est entre 0 et 2. C'est pour ça qu'on le divise à la dizaine, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Fait que quand tu fais l'exercice de relativiser, tu t'en vas dans le 5. Oui, c'est vrai, il y en a qui sont morts. Oui. Je me suis juste cassé un ongle. Tu sais, ça peut être une façon, parmi tant d'autres, c'est pas d'utiliser toujours la même, mais c'est une façon parmi tant d'autres pour te ramener ce que tu as fait au fond, c'est de dire, regarde, il y a tel parent qui vit telle affaire, eux autres sont dans le 4.
Moi, j'ai la chance de les avoir. Ils sont gossants, mais faut que je reprenne ce mois.
Fait que c'est un 0,4. Tu t'es ramené sur le thermomètre de gravité.
C'est ça. Votre thérapie est terminée, Mme Pinchot?
Hey, c'était incroyable. Oui. J'aime toujours ça.
J'espère que non, parce que je vais revenir.
Ben oui, c'est ça. Il va falloir reciduler un moment éventuellement. Les auditeurs, en passant, il y en a encore qui découvrent que tu es de retour.
Ben oui.
Ils sont très contents de savoir que tu es...
Oh, le mec! Spécialiste du comportement humain et éducatrice spécialisée. On peut t'en rejoindre de quelle façon?
Vous pouvez me rejoindre de Paul Levesque à commercial@yahoo.ca, paullevesque.net. Tapez Paul Levesque, là, si vous voyez une
madame avec les cheveux
rouges, c'est moi. Oui. Vous allez, puis, tu sais, vous pouvez communiquer avec Audrey puis Yannick. Puis,
ben oui.
Puis, dès mon premier passage, j'ai de vos auditeurs qui sont devenus mes clients.
Ah, c'est
que, ce que ça veut dire, c'est que les gens, des fois, quand ils entendent une voix, ils mettent quelqu'un, puis ils ont peut-être plus envie de poser un geste pour s'aider, même si on n'est pas ici pour faire du marketing. Là,
Ça a été un plaisir de te jaser.
Je vous embrasse.
On se redonne rendez-vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été là.
Bye bye.
11h08, courte pause, on revient. Le garage à Dan Goron. Oh boy, les gens l'apprécient beaucoup, Paul.
Hey, mais c'est un... Sérieusement, merci, Anne.
Ça fait plaisir.
Non, mais c'est une découverte, cette femme-là. Tu sais, il y a bien du monde avec qui on jaserait longtemps de même. On aurait probablement des textos de « OK, c'est bon, on peut passer à autre chose. » mais Paul, là, tu l'écoutes, t'es fasciné, t'as plein de questions. Puis il y a plein d'auditeurs encore qui nous ont écrit à quel point ça faisait du bien de retrouver.
J'ai énormément de chums qui ont eu accès à Paul, des camionneurs aussi qui avaient besoin de jaser, qui ont jasé avec Paul. Puis ils sont tous unanimes là, pour dire que Paul a changé une bonne partie de leur vie.
Ah, mais je veux dire, elle est sans jugement, elle est délicate. Honnêtement, là, oh mon Dieu, oui, elle est comique. Si vous avez besoin, vous nous écrirez, on vous redirigera au pire.
Il y a moyen de la chaler un peu. Bon, là, je vois qu'il y a du monde de la station qui jase.
Ben oui, à Véro.
Véro,
Véro, tantôt, c'était Laurence. Elle fait jaser.
Hey, le rouge et or de l'Université Laval qui va affronter le vert et or de l'Université de Sherbrooke. Ça se passe quand, ça? C'est dans pas deux jours. C'est dans trois jours, les amis. Donc, 22 septembre, on dit...
dimanche.
Oui, exact. Venez nous rejoindre au tailgate. C'est dimanche, t'es sûr?
Oui, je suis pas mal certaine.
On est quoi, jeudi?
Le 19.
Vendredi, samedi, dimanche. T'as raison. Donc, venez nous rejoindre. On va être sur place. Il y a plein de belles choses pour vous autres au kiosque de Boulevard. Des cartes cadeaux Laurier Québec, item à l'image de la station. Les animateurs vont être là. Max va être là avec ses fameux pogos, les grignotines, etc. Donc, de plus, cette année, on va faire gagner avec Laurier Québec une carte cadeau de 1 000 $ pour tous les auditeurs qui vont passer nous voir au Tailgate. Vous devriez noter l'indice du match qui va se donner au kiosque de Boulevard 102.1 et être à l'écoute de nos émissions le lundi suivant pour devenir finaliste. Donc, si vous n'avez pas accès à vos billets, allez faire un tour tout de suite sur rougeetorulaval.ca, rougeetorulaval.ca, et on va se voir au tailgate, les amis.
C'est vraiment un bel événement. Puis quand c'est en matinée avec la petite fraîcheur, là, c'est vraiment le fun. Moi, honnêtement, j'en manque presque pas un parce que c'est vraiment une activité qui est tripante.
T'as-tu acheté mes bobettes, là?
Hey, ça se fait ce soir. Je suis tellement excitée, là, Pascal. Puis moi, on s'est jasé ce matin parce que là, la semaine passée, il faut savoir qu'on était pleine de plans, mais les magasins étaient fermés. Fait qu'on y va ce soir, on a une coupe d'arrêt en tête, on sait ce qu'on veut. Fait qu'on va vous traîner avec nous. Vous suivrez le Instagram de Boulevard, là. Ouais. On va mettre quelques stories pour vous amener dans notre univers. D'ailleurs, c'est
les deux filles vont aller au 7e ciel.
Oui, on va aller entre autres au 7e ciel.
Mel Tessier va être là pour vous accueillir?
On s'est jasé, elle va essayer d'être là. Okay. Ils sont dans le jeu, eux autres, ils ont comme un événement en fin de semaine. Là, fait que, mais chose certaine, il y a des choses de mis de côté pour toi.
OK.
Fait que c'est sûr qu'on va aller faire un tour au 7e ciel. Puis il y a beaucoup de monde en passant. Hein? Puis je sais que tu as la liste, Yann, là, mais qui ont donné de l'argent pour ton costume et pour la bouchée généreuse.
Passion informatique, 100$. Image Express sur la côte de la Pente douce qui donne aussi. Pèlerin Inspection, 500$. Ça, c'est un inspecteur en bâtiment avec plus de 15 ans d'expérience. 7e ciel qui est là. Mon chum Simon Laberge, 1 000$. Expert Finition 2020 qui est là avec un 100$. David Beaupré qui est venu nous voir. Il y a de ça quelques jours aussi en studio. Et café bénéfique, c'est quoi ça?
Ça, c'est un sujet.
Ça, c'est un sujet, voilà. Donc, j'étais là, il y a ça un café bénéfique qui s'est amélioré?
Hey, mais ça prouve, la gang.
La cagnotte?
Je pourrais écrire n'importe quoi sur une feuille.
Je te fais confiance. C'est ça.
Ah, c'est bon.
Mais merci beaucoup. Puis si vous voulez vous ajouter pour ce qui est des commanditaires pour mon costume, ben sachez que probablement que le costume ne coûtera pas ces milliers de dollars-là, bien entendu. Mais tout l'argent va être à la bouchée généreuse. D'ailleurs, pour ce qui est des gens qui nous ont déjà envoyé leur nom pour dire « Hey, moi, je donne 100$ ou 500$, je vais vous envoyer un lien direct pour la bouchée généreuse pour que vous puissiez donner directement. »
Pour ce qui est de ton nom de lutteur dans le combat qu'il y a sur Instagram en ce moment, sache que le Marceau Pilami a passé à la prochaine round. Marceau de viande est passé à la prochaine
Red, round. Il m'a dit qu'il est sur le point de me choquer, là.
Pourquoi?
Ben, mais... Il dit qu'il peut pas être mon gérant et mon coach si je m'appelle Marceau de viande.
Bon, ben, les auditeurs, écoutez bien ça. Là. Fait que c'est à vous de voter en passant.
Les filles, arrêtez de voter, OK?
Pourquoi?
Qui tu penses qui a voté Marceau de viande?
Ben, moi, j'ai voté Yann Solo. J'ai un respect pour ta personne. Juré craché. Juré. Parce que moi, j'ai une intention. Hein. Je veux vraiment que Marceau Polo gagne. J'ai beaucoup d'amour pour ce nom-là. Aujourd'hui, le combat, c'est Marceau Piqueur contre Morceau Masqué. Lequel, selon toi, est en avance?
Morceau Masqué.
T'es chanceux, c'est Marceau Piqueur.
Ah ouais? Okay.
Oui, parce que Morceau Masqué, ça aussi, ça a quand même une connotation assez particulière. Fait 80% du monde qui vote pour Marceau Piqueur. Et le dernier combat qu'on aura, c'est Marceau Polo contre Macho Man avant de tomber en demi-finale. Fait qu'allez voter, c'est sur l'Instagram de Boulevard tous les jours. Vous décidez le nom de lutteur de Yann pour le combat du 27 septembre prochain pour la bouchée généreuse. En passant, il reste des billets. Hein?
C'est à 20h, c'est au Centre Horizon. Il va y avoir 7 combats de lutte professionnelle avec des athlètes qui sont extraordinaires. Le combat de la fin, c'est le mien contre Gros Gorry et Steven Sullivan, qui va être là. Les billets sont en vente, comme Audrey l'a dit, au lepointdevente.com. Vous tapez NSPW. Tout l'argent va directement à la bouchée généreuse. Il n'y a pas une scène qui va dans les poches de personne. Merci beaucoup à Boulevard 102.1, Matériaux Audet, la CNESST. J'en oublie-tu? Merci beaucoup à la NSPW. La bouchée généreuse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 1100 familles aidées chaque semaine, dont près de 2000 enfants dans ces familles-là. Donc, c'est important pour nous. Puis, on a On a tourné quelque chose de spécial, hein, quelque chose d'extrêmement positif. Gros Goré qui était pas content quand j'ai dit que les lutteurs étaient pas tout en forme. Il était fâché. J'étais allé gâcher le party. Puis après ça, on a décidé d'avoir un combat. Puis ça va rapporter directement la bouchée généreuse ainsi que tous les bénéficiaires.
Ça va être une sacrée belle soirée.
Yes! Il nous reste à peu près 2 minutes et demie. Audrey, tu voulais nous parler de 100 grammes.
Oui, écoute, je te fais ça rapide. Je pense qu'on peut se servir à la gang. Il y a un article qui est sorti dans Radio-Canada qui parlait du principe de la hausse de prix du panier d'épicerie. Je veux dire, on la ressent tout, c'est pas nouveau, je vous apprends rien, là. Et ce qu'on dit, c'est que parmi les trucs, les gens vont avoir une tendance à acheter les plus gros formats. Tu sais, quand t'achètes des plus gros formats, t'as l'impression que ça te revient moins cher. T'en as plus pour ton argent. T'sais, c'est un peu comme ça qu'on le voit. T'es d'accord, Yann?
Oui.
Bon. Fait que ce qu'on nous apprend dans cet article-là, c'est qu'en réalité, il y a 20 % des produits qui reviennent moins cher si tu les achètes en plus petit format. Puis on est arrivé à ce calcul-là parce qu'on s'est mis à calculer le prix aux 100 grammes de produits pour réaliser que quand tu achètes un plus gros format, évidemment, ça coûte plus cher, mais on te fout un petit peu sur certains produits.
Mais quand tu n'es pas alerte, effectivement, moi, ça fait une couple d'années que j'avais remarqué que les épiceries tentaient de nous avoir de ce côté-là, mettaient un gros deal sur le format immense. Puis là, tu te rendais compte que le plus petit était moins cher. Fait que tu achetais le plus petit.
Un exemple de base, sans vous mêler, la moutarde. Là. Si tu achètes le petit format régulier, là, c'est 50 cents au 100 millilitres. Si tu achètes le gros format, tu es à 64 cents au 100 millilitres. Fait que tu reviens bien plus dans ton argent si tu achètes plus de petits formats à la limite. Mais là, c'est quand même difficile à gérer tout ça. Et il y a une gang qui a décidé de créer le site 100grammes.ca. Là, je suis en train de me promener sur le site. Là. C'est assez trippant comme concept. À la base, quand tu arrives sur le site, tu as toutes les catégories. Là. Les fruits, les légumes, viande, poisson, à boire, garde-manger, réfrigérateur et congélateur. Tu peux y aller comme ça par catégorie puis fouiller pour te donner des idées. Mais mettons que tu es lâche comme moi. Là. Ce que tu peux faire, c'est de dire, mettons, bon, ben moi, je sais que j'achète tout le temps ce pain-là, j'achète du lait, des œufs. Bon, ta liste d'épicerie habituelle, tu peux carrément taper ce que tu recherches. Fait que mettons que j'écris, je sais pas moi, moutarde, justement. J'écris moutarde. Bien là, on va me sortir tous les produits là, qui contiennent de la moutarde. Là, je suis dans viande. Fait qu'ils vont me dire que le filet de porc à moutarde au miel, le moins cher en ce moment, là, aux 100 grammes, c'est chez Super C. Fait que tu peux monter ta liste d'épicerie carrément de cette façon-là. Tu peux sélectionner carrément ton épicerie ou le type de produit que tu veux ou y aller par recherche un peu plus précise. C'est franchement bien fait. Puis au-delà de ça, si tu es sceptique, comme moi, tu peux aller dans le bas du site où on te fait calculer ce que te coûte environ ton épicerie par semaine, par mois, par deux semaines, combien d'adultes tu es à la maison. Ils te font faire un petit questionnaire qui prend 4 secondes et quart et on te dit le total d'économie que tu peux faire par semaine. Fait que ça donne une idée directe de, OK, si je prends le temps d'aller taper vite, vite, là, ben, je peux économiser jusqu'à, mettons, 100$ sur ma prochaine épicerie.
Ça vaut vraiment la peine.
C'est franchement bien fait, puis ça t'évite de faire les calculs.
100 grammes?
Oui, 100 grammes avec un S, évidemment, 100grammes.ca. Très, très bien fait.
C'est vrai que tu es sceptique, toi. J'avais remarqué ça. Quand je travaillais pas avec toi, je m'en étais pas rendu compte, mais là, je m'en rends de plus en plus compte. Quand on dit quelque chose, la première affaire que tu fais, c'est je te crois pas.
Ça dépend. Hein? Si c'est pas logique, non, je te crois pas, puis je vais faire des vérifications.
Puis après ça, faut te donner quelques informations. Ah, c'est vrai.
Ben, c'est mieux que d'être trop naïf. Hein?
Exactement. 11h23, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute dans le retour tantôt avec Denis et Véro.
Yes, je t'écoute avec Pascal, puis on se voit demain.
Salut, à tantôt.
Salut. Bye.